Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM, il est 20h et installez-vous confortablement.
Car vous êtes à l'écoute de Semilla Latinas, l'émission qui extrait mensuellement sur les ondes FM le meilleur de l'Amérique latine.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Concarné, mais surtout con lithium. Le Chili, ce pays qui regarde sur plus de 4000 km l'océan Pacifique, est un pays riche. Mais pourquoi ?
Eh oui, le Chili s'étend de sa frontière nord avec le Pérou jusqu'au pôle sud, au niveau du Cap Horn, à l'ouest l'océan, à l'est la cordillère des Andes, qui le sépare de l'Argentine. Riche en paysages, bien sûr, mais surtout riche en matières premières. Le Chili, c'est le deuxième producteur mondial de lithium, juste derrière l'Australie. Il détient donc une ressource clé de notre époque, ce nouvel or blanc, qui est un composant essentiel de nos batteries et de nos appareils électroniques. Dès les années 70, sous Salvador Allende, l'extraction minière, alors centrée sur le cuivre, était nationalisée et pensée comme levier de développement. Et aujourd'hui encore, le pays continue d'exploiter ses ressources pour faire tourner son économie. Ce discours extractiviste, on l'entend déjà régulièrement.
Drill, baby, drill.
Pourtant, actuellement, la transition écologique et la sortie des énergies fossiles demandent le déploiement de batteries pour les voitures électriques, par exemple. Et le lithium est un composant indispensable à leur fabrication et on fonce le pays dans ce modèle extractiviste. Un modèle hérité de la colonisation européenne à l'époque de la capitainerie générale du Chili et qui reste au cœur de son économie. L'extractivisme, c'est l'exploitation intensive des ressources naturelles, comme les minerais, le bois ou encore l'eau, majoritairement destinées à l'exportation, avec souvent peu de retombées directes pour les populations locales. Cette activité déplace les frontières entre espaces dits productifs et improductifs.
Le tout dans l'un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE où l'intervention de l'État reste minimale.
Cette politique s'est institutionnalisée pendant la dictature du fameux Augusto Pinochet sous l'impulsion des Chicago Boys, groupe d'économistes états-uniens qui ont marqué la politique économique de l'État.
Alors aujourd'hui, on vous propose une exploration au cœur de ces dynamiques. Vous l'aurez compris, cet épisode est consacré à l'extractivisme au Chili.
Mais pas que.
Bien sûr, nous avons de notre côté extrait le meilleur de nos chroniqueuses pour cette émission.
Et Paloma, quel est le programme de cet épisode ?
Eh bien, après notre ouverture, c'est Astrée qui nous présentera la Constitution chilienne, un texte au cœur d'un processus historique entamé après la révolte sociale de 2019 et qui a ouvert la voie à une refonte profonde des règles du jeu politique et économique.
Et ensuite, nous écouterons d'une oreille attentive une interview de Vincent Arpoulet par Sylvie et toi-même sur le présent extractiviste au Chili.
Et oui, en deuxième partie d'émission, Anaëlle nous parlera du conflit qui dure depuis plusieurs centaines d'années entre l'État chilien et le peuple indigène Mapuche.
Manon, quant à elle, nous proposera un tour du monde, et oui, du monde, des poètes et poétesses du Chili.
Et enfin, pour conclure cette émission, Pauline, elle, nous fera lever les yeux vers les murs du Chili où le street art devient une voie politique.
Et tout du long de cette émission, vous entendrez deux morceaux chiliens soigneusement choisis pour vous. Et restez bien à l'écoute, une surprise vous attend en cours de route.
Une émission qui explore les failles du Chili pour mieux comprendre les forces qui le traversent.
Vous écoutez Semilla Latinas, bonne écoute sur Radio Campus Paris.
Et pour introduire cette émission, Astrée nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Astrée.
Bonsoir.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors pour cette émission, on m'a proposé de parler de la Constitution chilienne. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu dubitative. C'est un sujet vaste, apparemment technique, pas très sexy a priori, surtout à la radio. Mais n'ayant pas d'autre idée en tête, je me suis laissée embarquer. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que ce texte, souvent perçu comme figé et juridique, est en fait au cœur d'une histoire politique bouillonnante, d'un récit populaire profondément humain et terriblement actuel. Alors, je vous propose de partir ensemble à la découverte de cette constitution chilienne, de son origine à son poids symbolique, jusqu'aux tentatives récentes de la réécrire, en espérant, qui sait, vous transmettre un peu d'intérêt que j'y ai trouvé en chemin.
Merci Astrée, mais alors c'est quoi une constitution ?
Alors, une constitution, c'est un texte fondateur, celui qui constitue un régime politique. C'est un peu comme la colonne vertébrale d'un État. Elle définit les droits fondamentaux, l'organisation des pouvoirs, le rôle du président, du parlement, de la justice. Et c'est aussi un miroir de la société qui l'écrit, de ses valeurs, de ses fractures, de ses espoirs. Et bien souvent, les constitutions apparaissent dans des moments de rupture ou de refondation. En France, par exemple, la constitution de la Ve République a été instaurée en 1958 par le général de Gaulle dans un contexte de crise politique.
Vive la République ! Vive la France !
Ok, merci Charles. Et plus récemment, on se souvient peut-être de la campagne présidentielle de 2022, où la France insoumise défendait l'idée d'une 6e République via une nouvelle assemblée constituante. Bref, la Constitution, ce n'est pas qu'un texte poussiéreux, c'est un enjeu politique majeur.
Et au Chili ?
Alors au Chili, la Constitution actuelle, elle date de 1980. Elle a été rédigée sous le régime militaire d'Augusto Pinochet, en pleine dictature. Et donc ce texte n'est pas tout neutre. Il est élaboré par une commission nommée par la junte militaire, sans réelle consultation démocratique, comme c'est étonnant. Et bien qu'elle ait été amendée, c'est-à-dire modifiée, plusieurs fois depuis le retour à la démocratie dans les années 1990, elle reste marquée par l'idéologie néolibérale de la dictature, avec un rôle minimal de l'État, la privatisation des services publics et l'imitation des droits sociaux.
Et ce texte n'a jamais été source de critiques de la part de la population ?
Alors si, en 2019, une vague de protestations sociales éclate dans tout le pays. C'est ce qu'on entend d'ailleurs en fond derrière. Ces protestations sont d'abord contre l'augmentation du prix du ticket de métro à Santiago, puis contre les inégalités structurelles. La question constitutionnelle revient en force. Et le slogan, c'est « Ce n'est pas 30 pesos, c'est 30 ans » qui résonne dans les rues. 30 ans de promesses non tenues et d'un modèle hérité de la dictature. Et c'est dans ce contexte politique que les partis, sous la pression du mouvement social, finissent par s'accorder sur un processus constituant. Un plébiscite est alors organisé en octobre 2020.
Et le résultat est impressionnant, non ? Il y a près de 78% des votants qui disent oui à une nouvelle constitution.
Exact, c'est un moment historique. Après ce plébiscite de 2020, c'est une assemblée constituante qui voit le jour en 2021. Et un fait inédit, ses membres sont élus directement par le peuple, avec parité homme-femme et des sièges réservés aux peuples autochtones. C'est une première mondiale et l'espoir est immense. Et pour cause, cette convention rassemble des figures issues de la société civile, des mouvements sociaux, des militants et militantes indigènes, des juristes critiques. Pour la première fois, ceux et celles qui avaient été exclus du jeu politique traditionnel se retrouvent au centre du pouvoir constituant. Le texte qui en résulte, il est ambitieux. Il reconnaît le Chili comme un État plurinational, garantit des droits sociaux fondamentaux, la protection de l'environnement, l'égalité des genres, la participation citoyenne. Il met aussi en question l'organisation territoriale centralisée et propose une vision post-néolibérale en rupture avec l'héritage de Pinochet. Mais en septembre 2022, à la surprise générale, ce projet est massivement rejeté par référendum.
Et pourquoi ?
C'est là que l'histoire devient un peu plus complexe. La campagne de désinformation a été virulente. Les élites économiques et politiques ont largement investi pour décrédibiliser le texte. On a brandi l'idée d'un pays ingouvernable, on a effrayé avec la fin de la propriété privée, on a agité le spectre du chaos. Mais il y a aussi un vrai malaise, une méfiance envers un texte jugé trop long, trop radical, parfois mal compris. Beaucoup de Chiliens et Chiliennes voulaient un changement, mais ils n'étaient peut-être pas prêts pour celui-là. Résultat, un deuxième processus constituant est lancé, cette fois encadré par le Parlement, avec des experts nommés et une orientation bien plus conservatrice. Le texte, beaucoup plus modéré, a lui aussi été rejeté en décembre 2023. Mais cette fois par ceux et celles qui voyaient dans ce retour en arrière une trahison du souffle populaire de 2019.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on en est à deux référendums, deux échecs et une constitution, celle de 1980, toujours en vigueur. Une constitution née sous la dictature, qui continue d'organiser la vie politique d'un pays profondément transformé. Mais cette histoire ne s'arrête pas à des textes. Elle dit quelque chose de plus profond. Le rapport entre démocratie, mémoire, territoire et ressources naturelles. Car oui, le Chili, comme on l'a vu dans l'édito, c'est aussi un pays profondément marqué par l'extractivisme. Un pays où les richesses du sous-sol sont massivement exploitées par des entreprises privées, nationales ou étrangères, avec très peu de contrôle public. Un pays où les territoires indigènes sont surexploités, où l'eau est privatisée, où l'environnement est sacrifié au nom de la croissance. Et la Constitution joue ici un rôle clé. Elle détermine qui a le droit d'exploiter, de décider, de résister. Et dans le projet de 2022, des mesures fortes étaient prévues. La reconnaissance des droits de la nature, la gestion collective de l'eau, la souveraineté sur les ressources naturelles. Dans toute l'Amérique latine, cette tension est palpable. Entre lutte environnementale, revendications indigènes, combats pour l'eau, la terre, le logement. Au Chili, en Bolivie, en Colombie ou en Équateur, les constitutions deviennent le champ de bataille symbolique de ces affrontements. C'est là que se jouent les alternatives possibles, mais aussi les blocages. Alors oui, parler de constitution, ce n'est pas si ennuyeux. C'est même peut-être l'un des endroits les plus politiques et les plus brûlants qu'on puisse explorer aujourd'hui. Et pour finir, ce que vous venez d'entendre là en arrière-plan, ce sont les chants entonnés par les manifestants pour une nouvelle constitution, donc en 2019. Ils et elles reprenaient le grand Victor Jara et la musique Derecho a Vivir en Paz, le droit à vivre en paix.
Eh bien, merci Astrid pour ta chronique. Et par ailleurs, l'équipe de l'émission vous recommande le film de Patricio Guzmán, Mon pays imaginaire, sur les manifestations de 2019.
Et avant de poursuivre, nous vous proposons une première pause musicale avec Anna Tijoux, une artiste franco-chilienne, fille d'exilés politiques sous la dictature de Pinochet. Dans son morceau « Choc », elle dénonce les injustices sociales et soutient les luttes étudiantes au Chili. On l'écoute tout de suite.
Venenos tus monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle se raya, la calle no calle. Debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Bajo tu tueldo, semilla, pascuala, metido seguro. Tus monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo.
Nous venons d'écouter Choc de Anna Tijoux sur le 93.9 FM. Dis-moi Paloma, je vois que le plateau de Semilla Latina s'est rempli.
Et oui, c'est maintenant l'heure de notre interview sur l'extraction du lithium au Chili que j'anime avec Sylvie. Bonsoir Sylvie, c'est qui notre invité ce soir ?
Bonsoir Paloma, et bien ce soir notre invité c'est Vincent Arpoulet. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
très bien, merci.
Merci d'être avec nous ce soir. Tu es doctorant en histoire économique à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de la Sorbonne Nouvelle, où tu mènes une thèse sur l'extractivisme minier en Bolivie et au Pérou. Et dans le cadre de ton doctorat, tu as participé en 2023 à un séminaire itinérant consacré au chemin de la transition énergétique dans le désert d'Atacama.
Et donc ce soir, tu es au micro de Semillas Latinas pour nous parler de l'extraction du lithium, donc qui est un métal hautement stratégique pour la transition énergétique et qui est promu par les pays du Nord global pour sortir des énergies fossiles, avec notamment un pacte vert qui a été lancé par l'Union européenne en 2021 et qui vise à décarboniser l'économie d'ici 2050. Décarboner plutôt, je crois. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce que c'est le lithium et pourquoi il est au cœur de cette transition énergétique aujourd'hui ? Et plus spécifiquement au Chili, en fait, comment ça se passe cette extraction du lithium, notamment dans des zones comme le Salar d'Atacama ?
Oui, alors déjà, merci beaucoup d'avoir invité pour parler de tous ces sujets-là. Alors déjà pour présenter assez rapidement ce qu'est le lithium, c'est une ressource qui est très stratégique pour la transition énergétique parce que c'est une ressource en fait qui dispose d'une capacité assez importante de stockage de l'énergie électrique. Et donc on utilise le lithium pour concevoir tout ce qui est, enfin pas mal de batteries, de piles, on retrouve dans un certain nombre de batteries, et en particulier les batteries des voitures électriques. Et donc c'est pour ça que la plupart des pays à l'heure actuelle cherchent à sécuriser leur approvisionnement en lithium. Et donc, en fait, le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium. Il assure à peu près 30% de la production mondiale de cette ressource parce qu'il dispose de réserves assez importantes dans le Salar d'Atacama, donc qui est un désert qui se trouve dans le nord du Chili et dans lequel on trouve ce qu'on appelle des salares, en fait, des salars qui sont des sortes de ce qu'on appelle des bassins évaporitiques dans lesquels on trouve des saumures. Donc les saumures, c'est des espèces de l'équivalent de nappes phréatiques en fait, qui contiennent un certain nombre de sels. Donc parmi ces sels, ben on trouve notamment le sel qui sert de base au lithium, le magnésium, le potassium, etc. Et donc en fait, le processus de production du lithium en tant que tel, ça consiste à creuser des puits dans ces bassins évaporitiques pour en retirer ces saumures et les soumettre ensuite à un processus d'évaporation qui dure en fait de 12 à 18 mois, mais en fait ça dépend du type d'ensoleillement des différents pays dans lesquels on produit du lithium. Si on prend en fait le Chili, le processus d'évaporation est beaucoup plus rapide qu'en Bolivie par exemple, parce que il n'y a pas vraiment de saison des pluies dans le Cerro de Atacama, et du coup l'ensoleillement est beaucoup plus important, et donc on s'approche plutôt des 12 mois pour le processus d'évaporation au Chili que 18 mois. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, pour produire du lithium, il faut du coup extraire pas mal d'eau souterraine, de ces nappes phréatiques qu'on fait évaporer, pour que progressivement au cours de ce processus d'évaporation, on ait une concentration de tous ces cristaux, de tous ces sels, qu'on va retirer en fait les uns après les autres pour finir par obtenir le sel qui sert de base au lithium.
Oui, c'est une technique qui est extrêmement gourmande en eau et il y a par ailleurs énormément de produits chimiques qui sont introduits, donc ce qui induit de fait une pollution énormissime de l'eau dans des territoires qui sont déjà en stress hydrique, étant donné que le désert d'Atacama est le désert le plus aride au monde par ailleurs.
Et donc je crois que le lithium a un statut un peu particulier au Chili. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui peut exploiter ce lithium? Et est-ce que c'est l'État qui a la main sur le lithium, ou est-ce que c'est plus des entreprises privées par exemple?
Alors en fait, au Chili, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Gabriel Boric arrive au pouvoir, il porte l'objectif en fait de mettre en place une entreprise nationale du lithium. Mais avant que ce projet voit le jour, la production de lithium était assurée par deux grands groupes privés, donc ils sont Albemarle, qui est une entreprise états-unienne, et SQM, donc société chimique et minérale du Chili, donc voilà, qui est une société privée chilienne, qui d'ailleurs appartenait jusqu'à il y a peu au petit fils de Pinochet, pour l'anecdote. Et donc en fait, ces deux entreprises assurent en fait l'intégralité du processus d'extraction de ces ressources-là, enfin notamment en fait le processus d'extraction, de transformation, de commercialisation. En fait, le truc, c'est que l'État avait délégué non seulement les capacités d'exploiter et de commercialiser ces ressources, mais aussi en fait la propriété en tant que telle de ces ressources via des concessions, en fait des concessions qui étaient octroyées à ces entreprises-là. Et donc je pense qu'on va peut-être revenir après sur l'entreprise nationale de lithium, mais juste par rapport à ça, en fait, ces deux entreprises sont couvertes par des concessions qui s'étendent jusqu'en 2030 pour SQM et jusqu'en 2043 pour Albemarle. Donc ce sont des concessions assez pour le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise nationale du lithium, en fait, vise à renégocier un peu les concessions qui sont octroyées, en tout cas les conditions dans lesquelles ces entreprises privées peuvent exploiter ces ressources, mais sans remettre en cause en fait la durée de ces concessions-là. C'est-à-dire que cette stratégie d'étatisation du lithium qui est portée par Boric, si elle voit le jour, ne verra le jour en fait qu'à partir du moment où ces deux concessions seront épuisées, donc quand même dans un certain nombre d'années. Donc ça reste en fait globalement géré par des multinationales privées.
Oui, si la particularité un peu du contexte chilien, c'est qu'on est dans une économie extrêmement néolibérale où le secteur privé a une importance énormissime, où l'État vraiment est extrêmement réduit, extrêmement peu présent. Et là, avec le lithium, c'est aussi considéré... Enfin, c'est un peu le paradoxe aussi dans l'économie chilienne, dans le sens où en 2019, il y a un décret qui est sorti qui fait que le lithium est non concessible et qu'il appartient exclusivement à l'État. Mais il y a des contrats spéciaux d'exploitation qui sont mis en place pour octroyer cette capacité aux entreprises privées d'extraire ces ressources. Et donc, tu évoquais aussi là, juste avant, cette volonté du gouvernement Boric de mettre en place une stratégie nationale du lithium qui va un peu changer de la donne. Cette stratégie, il a annoncé en avril 2023, où il souhaite que le pays devienne vraiment une référence mondiale dans le secteur, et qui reflète aussi cette volonté du gouvernement chilien de transitionner vers une économie verte globale. On pourrait même parler de capitalisme vert, extractivisme vert. Bref, on va s'arrêter là. Mais en quoi consiste concrètement cette stratégie nationale du lithium ? Est-ce qu'elle vise une certaine forme de nationalisation du lithium dans le cadre peut-être d'un gouvernement supposé de gauche, écologiste, social ?
Oui, alors en fait, ben voilà, cette stratégie, ça, alors pour le coup, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier de nationalisation, justement, parce que l'idée, c'est de créer en fait donc une entreprise publique chargée de déterminer en fait les conditions dans lesquelles seront extraites, exploitées en fait les, seront exploitées le lithium. Mais l'idée n'est pas que l'État en fait se substitue aux entreprises privées dans le processus d'extraction et de transformation du lithium. C'est-à-dire que ça reste vraiment en fait des entreprises privées qui sont chargées de ces activités-là. L'idée en fait, c'est simplement de réaffirmer la prédominance de l'État dans la détermination des conditions dans lesquelles seront extraites ces ressources. Donc l'idée en fait, c'est de renégocier les contrats qui seront octroyés aux différentes entreprises privées qui souhaitent développer des activités dans le secteur du lithium au Chili, et qu'en fait toutes ces entreprises-là, à partir du moment où ces deux concessions, donc encore une fois, seront épuisées, que toutes les entreprises qui souhaitent développer des activités au Chili se conforment aux conditions qui sont établies par l'État. Et alors ces conditions, l'idée c'est surtout, par exemple, il y a deux conditions en fait qui ont été mises en avant par Boric. La première, c'est de rediriger en fait une part significative des revenus qui sont générés par ces activités vers l'État, pour que l'État puisse les réinvestir dans un certain nombre de, à la fois de programmes sociaux d'une part, de programmes de redistribution sociale, et aussi dans en gros un début de diversification de la structure productive. Parce qu'en fait, une des problématiques dans lesquelles se trouve un État comme le Chili, c'est qu'il dépend en grande partie, voire quasi exclusivement, de l'exportation de matières premières non transformées, ce qui fait que l'économie est très sensible en fait aux variations des cours, des prix des matières à l'échelle internationale. Et donc l'idée en fait, c'est d'essayer de s'appuyer sur une certaine redirection, de la majorité des revenus qui sont issus de ces activités vers l'État, pour les réinvestir dans le développement d'activités alternatives aux activités extractives, ou alors pour industrialiser progressivement les filières extractives. Et donc ça, j'en viens au deuxième point, parce qu'en fait, le deuxième point qui mettait en avant, c'est que la plupart des entreprises, en fait, qui, à partir de la mise en place de cette possible stratégie nationale du lithium, la plupart des entreprises qui souhaitent développer des activités dans le pays devraient, en fait, accepter de transférer progressivement des technologies à l'État chilien. L'idée, c'est aussi que l'installation d'entreprises privées soit conditionnée à des transferts de technologies progressifs, pour que l'État puisse mettre la main aussi et puisse en fait développer des compétences en termes de transformation des ressources, de conception en fait de toutes les technologies qui dérivent de ces ressources, donc tout ce qui est les technologies vertes. L'idée c'est que l'État en fait ne se contente pas d'exporter purement simplement le lithium non transformé, mais de progressivement se spécialiser dans la conception de batteries électriques, etc. Donc ça c'est un peu le projet en fait qui était mis en avant dans le cadre de cette stratégie là. Après, c'est pas une nationalisation à proprement parler. Parce qu'en fait, comme tu l'as un peu évoqué pour parler du contexte chilien, mais c'est vrai que c'est un pays dans lequel on a eu une expérience très néolibérale au cours de la dictature de Pinochet. Et en fait, lorsque Pinochet arrive au pouvoir en 1973 via le coup d'État qui l'opère, il fait adopter une nouvelle constitution dans laquelle il va intégrer en fait un certain nombre de principes néolibéraux. Donc en fait, on a un certain nombre d'idées néolibérales qui vont se transformer en principes constitutionnels à part entière. Et parmi ces principes, il y a notamment l'interdiction des nationalisations économiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans la constitution chilienne. Donc en fait, si on veut réaffirmer le contrôle de l'État dans la gestion des activités économiques au Chili, il faut composer avec ce cadre constitutionnel en fait en vigueur qui interdit des nationalisations économiques. Et c'est pour ça en fait que on passe plutôt par une entreprise nationale qui vise en fait à concilier financement public et privé, enfin une espèce de des initiatives dans lesquelles on met en place une coopération plus renforcée entre le public et le privé, mais pas du coup une réaffirmation du contrôle de l'État sur la totalité de la chaîne de production, et parce que ça serait contraire du coup à ces principes constitutionnels. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi tenté de remettre en question cette constitution à deux reprises, puisque Boric arrive au pouvoir dans son contexte dans lequel auparavant, en fait, on a eu un référendum constitutionnel un référendum dans lequel, en fait, la majorité de la population s'est déclarée favorable à une révision de la constitution. Lorsque Boric arrive au pouvoir en 2022, du coup, il s'engage à faire garantir, en fait, le fait que la constitution qui est en cours de rédaction à ce moment-là soit menée à son terme et qu'on ait bien, en fait, un référendum au cours duquel la population puisse se prononcer sur la révision de la constitution. Bon, ce qui s'est passé, c'est que cette constitution a été rejetée. Bon, peut-être que je peux m'étaler sur les raisons, c'est pas trop le sujet.
On a parlé dans sa chronique.
Oui, pardon,
les auditeurs auront plus d'éléments.
Cette révision constitutionnelle n'a pas abouti. Et donc, on doit composer avec ces contraintes-là pour essayer de réaffirmer le contrôle de l'État sans que ça puisse s'apparenter à une forme de nationalisation qui soit en fait, une réaffirmation de la propriété intégrale de l'État sur ses ressources.
Donc, voilà. Et oui, non, mais c'est vraiment un contexte particulier dans le sens où aussi l'eau est considérée comme un bien marchand. Je pense que c'est vraiment l'un des rares pays au monde où l'eau est privatisée. Et tu viens de le mentionner, où Boric arrive au pouvoir avec cette volonté de mettre en place davantage de justice sociale, davantage de processus de démocratie participative, etc. Et dans cette volonté affichée de refonder un peu le système politique, est-ce que pour élaborer cette stratégie nationale du lithium, les communautés indigènes, est-ce qu'elles ont été consultées dans l'élaboration de cette stratégie? Et même de manière plus générale, lorsqu'il y a des projets d'extraction mis en place dans les salars d'Antofagasta, dans le salar de Maricunga, dans le salar d'Atacama, est-ce qu'elles sont consultées par ces entreprises qui mènent à bien leur projet?
Justement, c'est de ce point de vue-là, on a notamment le Conseil des peuples Atacamen, qui réunit en fait l'ensemble des communautés indigènes qui vivent dans le désert d'Atacama. Ce conseil-là, en fait, a mis l'accent sur le fait que la stratégie de Boric était assez contradictoire, en fait, parce que d'un côté, ce qu'il veut faire, ce qu'il affirmait ouvertement, c'était de défendre une forme d'économie plus durable et développée, et donc qui se met en place en collaboration avec les communautés indigènes, qui passe en fait par des consultations plus systématiques, en fait, des communautés qui vivent à proximité des mines. Lorsqu'on veut développer des projets miniers, donc il y a quand même cette idée qui est mise en avant dans le cadre de la stratégie nationale du lithium qu'on veut mettre en place. Mais d'autre part, il y a aussi un autre objectif clé qu'il cherche à remplir, c'est de faire du Chili le premier producteur mondial de lithium. En fait, faire en sorte que le Chili finisse par dépasser l'Australie et devenir en fait vraiment le premier producteur mondial de lithium. Donc on a un peu ces contradictions-là qui font qu'en fait on a un certain nombre de communautés qui estiment que l'État les délaisse un peu, et en fait on a pas mal de communautés qui vont tenter de négocier directement avec les entreprises qui développent des activités sur place. Et en fait c'est le cas justement de ce conseil des peuples Atacamen qui va négocier directement avec les deux entreprises Esseco Eme et Albert Marle pour essayer d'obtenir en fait des compensations au développement des activités minières sur leur territoire. Et du coup, ces compensations, ça va être... Enfin, l'idée, en fait, c'est vraiment de pas forcément s'opposer à l'extraction en tant que telle, mais plus essayer de négocier des compensations économiques et sociales à ces processus extractifs. Mais ça passe, en fait, par le fait de notamment demander, en fait, l'investissement, enfin, le fait que l'entreprise qui exploite à proximité investisse massivement dans le développement d'infrastructures que l'État ne garantit pas, parce que, encore une fois, on est dans un modèle très néolibéral, il y a peu d'investissement public, même si Boric essaie de revenir dessus, mais encore une fois, c'est assez restreint par ce code constitutionnel, c'est aussi restreint par, je vais pas trop m'étaler sur ça non plus, mais par le fait qu'il n'a pas de majorité au Congrès, et donc, du coup, toutes ces stratégies qu'il veut mettre en avant sont encore à l'état de projet ou n'ont pas totalement été mis en place, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de majorité qui peut appuyer ce projet-là. Et donc, on a ce contexte dans lequel les communautés vont négocier directement avec ces entreprises-là pour obtenir, je ne sais pas, par exemple, pour prendre des exemples très, très concrets, mais dans le village de Rio Grande, qui est à proximité de ces mines-là, on a négocié la mise en place de retenues d'eau qui sont pompées par l'entreprise Esseco Eme, en fait, du Rio Putana, qui est à proximité, pour irriguer les plantations de ce village-là. Donc, en fait, on a ce genre de compensations, en fait, qui sont mises en avant par les entreprises. On a aussi la mise en place d'un parc de 150 panneaux solaires, par exemple, qui vise à assurer l'approvisionnement de l'intégralité de la communauté en électricité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, y a ce discours-là qui est très porteur et qui fait que les entreprises parviennent à s'implanter sur place et à montrer en fait qu'elles sont nécessaires au développement local. Enfin, il y a un peu ce sujet-là. Les communautés cherchent à compenser en fait le fait qu'elles sont peu consultées par des négociations directes avec les entreprises. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette logique-là qui se met en place.
Oui, c'est ça. Tu parles un petit peu donc de compensation, mais qui sont assez liées en fait à l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des impacts concrets de l'extractivisme sur l'environnement?
Oui.
Et sur les communautés?
Le fait du coup d'extraire quand même massivement des eaux souterraines, en fait, du coup ça soumet ces territoires-là à du stress hydrique assez important. C'est déjà comme tu le rappelais, mais un désert qui est, c'est le désert le plus aride du monde, et ses activités viennent d'autant plus accroître ce stress hydrique. J'avais noté quelques chiffres, mais par exemple, pour obtenir une tonne de lithium, il faut 2 millions de litres d'eau, en fait. Enfin, il y a des chiffres qui ont été évoqués. En fait, surtout, la dynamique actuelle fait que on a une augmentation assez considérable de la demande de lithium à l'international, donc on a forcément une augmentation de l'extraction, ce qui fait qu'en fait, l'extraction se réalise plus rapidement que la capacité de, en gros, régénérescence, enfin de renouvellement des nappes phréatiques. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a une agence publique qui s'appelle la Corporation pour le développement de la production au Chili, qui a mis en avant le fait que les quantités d'eau extraites dans le Salar dépassent de environ 21% ce que les nappes phréatiques peuvent supporter durablement. Donc voilà, on a déjà cet impact. Le plus important qui concerne en fait l'accès à l'eau, et donc c'est pour ça que on cherche à compenser ça par le fait de construire des retenues d'eau, mais qui vont d'autant plus venir accentuer cet épuisement d'eau. Ce qui se passe aussi, c'est que ça conduit, ça porte atteinte à la biodiversité, parce qu'on a aussi des espèces en fait qui vivent dans le Salar, dont le nombre diminue de manière assez fortement. C'est le cas des flamants andins, qui est une espèce en fait qui vit dans le Salar d'Atacama, et dont le nombre en fait a baissé de 30% entre 1997 et 2013. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ces flamants andins se nourrissent principalement de microalgues qu'on trouve justement dans ces salars. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que l'extraction augmente de manière assez rapide, ça diminue le niveau de l'eau, et ça veut dire qu'en fait, pour continuer à extraire, les entreprises vont puiser de plus en plus dans des eaux qu'on qualifie de fossiles, qui sont non renouvelables en fait. Donc, ils puisent de plus en plus bas, plus profond dans les eaux, ce qui fait que le niveau diminue de plus en plus, et donc les rayons UV pénètrent plus dans le peu d'eau qui reste, ce qui va en fait altérer en fait la teneur de ces eaux en microalgues. Donc, on a aussi ce problème environnemental qui est assez important. Et puis plus basiquement en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'activités agricoles, et donc que la seule alternative qui reste, c'est de travailler dans la mine. Donc il y a aussi ça qui joue, c'est que en fait on a quand même des territoires qui sont qualifiés par certains biologistes ou même historiens sur place, qui nous expliquaient que c'était des territoires qualifiés de zones de sacrifice écologique, parce qu'en fait sacrifice écologique dans le sens où ce sont des zones qui sont intégralement consacrées à l'activité minière, qui sont sacrifiées pour l'activité minière. Tout est orienté vers cette activité là
Oui, et en termes aussi de conséquences, si on analyse avec une perspective de genre, il y a aussi, j'ai discuté récemment avec le réseau chilien contre la violence faite aux femmes, qui disait qu'on observe une recrudescence des cas de traite de femmes et de filles depuis l'implantation progressive des firmes extractivisme, en fait, parce qu'il y a une arrivée massive sur le territoire d'hommes, c'est des économies très masculinistes, et en fait, on observe aussi par exemple une augmentation de la consommation d'alcool, ce qui entraîne de fait une augmentation des cas de violence de genre dans les foyers, et donc faut aussi avoir en tête que ça reste des zones qui sont très peu peuplées, et donc ça reconfigure aussi toutes les dynamiques territoriales parmi des peuples autochtones qui ont aussi des modes de vie traditionnels, un rapport aussi différent à l'environnement, à l'eau, l'eau fait vivre, l'eau permet de boire, de se nourrir, alors que le lithium ne permet pas de manger, j'ai envie de dire, quoi. Et aussi, on insiste à une violation constante, j'ai envie de rappeler, du consentement libre, informé et préalable, qui fait partie de la convention de l'Organisation internationale du travail sur les peuples indigènes et tribaux de 89, qui affirme en fait que les entreprises ont pour obligation de consulter les populations locales qui vivent dans ces territoires où ont lieu les projets d'extraction. Et en fait, cette convention, elle est souvent complètement invisibilisée. D'ailleurs, la France ne l'a pas ratifiée et rarement mise en place.
Eh ben, je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on voulait aborder, mais on arrive à la fin de cet entretien déjà. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent, d'avoir été au micro de Semillas Latinas. Pour rappel, tu es doctorant en histoire économique à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de la Sorbonne Nouvelle, et tu mènes une thèse sur l'extractivisme minier en Bolivie, en Équateur et au Pérou. Merci aussi à Sylvie. Et avant de poursuivre, on vous propose une seconde pause musicale et on revient vite avec la suite du programme.
Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation et pour tous ces échanges. Merci.
Merci, bonne soirée à toi.
Merci, aussi.
De tiempo que quiere explotar. Yo soy madre tierra y revolución. Soy la voz del campesino, capto tu atención. Y quiero al final verte despertar en este huracán que te pondrá a bailar.
Ahí se viene el huracán.
Bam, 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 que te va a estallar. Bam, 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 es el huracán. Riquezas mal repartidas tienen que cambiar. Y veo más, más, más de lo que quieren dar. Mientras algunos cuantos luchan por recuperar. Yo soy madre, tierra y revolución. Soy la voz del campesino, capto tu atención. Y quiero al final verte despertar en este huracán que te pondrá a bailar.
Ahí se viene el huracán.
Bam, 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 que te va a estallar. Bam, 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 es el huracán.
Sur le 93.9 Radio Campus Paris, nous venons d'écouter Huracán du groupe Calle Mambo. Avant de poursuivre, nous avons une grande annonce à vous faire, chers auditeurs et auditrices.
Le groupe que vous venez d'écouter, Calle Mambo, sera en concert le 17 mai au Tamanoir.
Et nous avons des places à vous faire gagner dans un super jeu concours à retrouver sur notre page Instagram dès demain. Et bonsoir Anaëlle, tu souhaitais nous en dire plus sur l'histoire du peuple Mapuche et sur les revendications territoriales qui sont les siennes depuis des siècles et qui sont particulièrement vives ces dernières décennies, tandis que la question Mapuche a gagné en notoriété et suscité de nombreux débats à cause de l'escalade du conflit.
Tout à fait. Commençons avec un peu de contexte historique. Lorsqu'au milieu du XVIe siècle, les conquistadors européens sont arrivés dans le territoire qui constitue aujourd'hui le Chili, la région était habitée, de son extrémité nord jusqu'à la Terre de Feu, au sud, par environ 1 million d'Amérindiens et Amérindiennes. Or, le Chili a toujours nié sa diversité ethnique et culturelle. L'élite dirigeante du pays a longtemps promu l'idée d'une société racialement homogène, composée de descendants et descendantes d'Européens et Européennes, ce qui se traduit dans la Constitution par l'affirmation de l'existence d'un seul peuple, le peuple chilien. Ce mythe tenace a pourtant été nettement remis en question par des enquêtes statistiques. Un recensement effectué en 1992 a révélé que près d'un million de Chiliens et Chiliennes, sur une population totale de 13 millions d'individus à l'époque, s'identifiaient à l'une des trois principales cultures autochtones, les cultures Aymara, Rapa Nui et Mapuche. J'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement aux Mapuches, qui sont aujourd'hui la principale population indigène du Chili, représentant 1,7 million de personnes sur les 19 millions d'individus qui y vivent désormais. Le terme Mapuche, qui signifie « peuple de la terre » en Mapudungun, la langue Mapuche, désigne un peuple autochtone également présent de l'autre côté de la cordillère des Andes, dans le sud de l'actuelle Argentine. Les Mapuches étaient à l'origine une juxtaposition de communautés, pratiquant l'élevage, structurés en regroupements de familles, liés entre elles par un ancêtre commun, et formant des unités socio-politiques autonomes. Celles-ci s'unissaient en temps de guerre, en groupes plus larges, qui eux-mêmes, en cas de grave crise, concluaient des alliances pour former des groupements encore plus grands. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la lutte contre les envahisseurs espagnols, qui a vu les Mapuches s'ériger en circonscription militaire avec un chef suprême. Car pendant la période coloniale, si beaucoup de peuples autochtones d'Amérique et leurs terres furent accaparées et réparties par le biais d'une institution sociale appelée encomienda, où se pratiquait une forme d'esclavage, au sud du Chili, les ambitions européennes furent contrariées par la résistance du peuple Mapuche. Et rendez-vous compte, pendant près de 3 siècles, les Mapuches sont parvenus à expulser les conquistadors de leurs terres ancestrales et ont globalement continué à vivre de manière indépendante, après avoir négocié une série de pactes avec les nouveaux arrivants. C'est plus tard, après les indépendances du Chili et de l'Argentine, vis-à-vis de la couronne espagnole, que les Mapuches ont été spoliés et contraints de se replier du fait des processus d'expansion territoriale menés par les nouveaux États. Pourtant, cette nouvelle ère ne s'annonçait pas aussi destructrice au départ. 9 ans après l'avènement de la République chilienne en 1810, le statut libre et égalitaire des populations autochtones fut reconnu et en 1825, l'État chilien a réaffirmé leur autonomie et renoncé à l'installation d'institutions publiques dans la région. Mais c'est au cours de la seconde moitié du 19e siècle que l'Argentine et le Chili ont changé leur fusil d'épaule et ont décidé de s'accaparer ces territoires. Ces campagnes militaires extrêmement violentes, connues sous les noms euphémistiques de « conquête du désert » en Argentine et de « pacification de l'Araucanie » au Chili, ont entraîné des pertes humaines et une dépossession massive. L'historien mapuche Sergio Caniucueo, chercheur au Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, explique qu'en 1803, les Mapuches avaient 5 millions d'hectares et en 1927, ils n'en comptaient plus que 500 000. Ce n'est pas tout. Parmi les personnes qui ont survécu, beaucoup ont été vendus comme esclaves ou serfs pour travailler dans des plantations, tandis que beaucoup d'autres étaient dépossédés et réinstallés dans des reducciones ou lotissements au nombre de 3000 au Chili, de petites terres éloignées et improductives conduisant à l'appauvrissement de la société mapuche. Ces terres, où l'État reconnaissait les titres détenus par les chefs mapuches, ne représentaient que 6% du territoire ancestral mapuche. Durant la même période, les autorités chiliennes cédèrent de vastes étendues de terres à des populations non autochtones en Patagonie et en Terre de Feu. Parallèlement, l'État chilien a annexé en 1879 une partie des hauts plateaux andins où vivaient les Aymaras et en 1888 l'île de Pâques, patrie du peuple Rapa Nui. Voilà pour les prémices de ce qu'on appelle le conflit Mapuche et qui secoue vivement la société chilienne aujourd'hui. Au cours du XXe siècle, les Mapuches ont continué à perdre des terres et les lois et politiques étatiques ont favorisé, à de rares exceptions près, l'assimilation des peuples autochtones au supposé « État-nation », entre gros guillemets. Tout au long du siècle, différentes organisations Mapuches ont vu le jour. À partir des années 1950, une partie du mouvement Mapuche s'est rapprochée de la gauche politique, avec notamment l'Association nationale indigène liée au Parti communiste chilien. En 1969, les Mapuches ont commencé à s'emparer de terres revendiquées dans la province de Cautín, et par la suite, de nombreuses communautés ont mené à bien un processus sans précédent de récupération de terres ancestrales. ADMAPU, c'est une organisation mapuche fondée en 1978, qui a été très active sous Pinochet, s'opposant à la dictature militaire, et a ensuite participé aux accords de la transition vers la démocratie, qui ont conduit à la promulgation de la loi indigène de 1993. Cette loi a reconnu pour la première fois dans l'histoire du pays le droit des différents groupes ethniques et communautés autochtones du Chili à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs langues, et à les exploiter. Mais la loi ne leur a pas restitué la propriété sur des terres ancestrales. Malgré ses limites, cette loi protège les terres autochtones actuellement en leur possession et crée une Corporation nationale pour le développement autochtone, CONADI, un organisme d'État relié au ministère du Développement, comptant en son sein des représentants autochtones. Et le système de restitution mis en place par la CONADI permet à l'État de racheter des terres privées pour les redistribuer aux familles indigènes. À ce jour, plus de 200 000 hectares ont ainsi été rachetés par l'État, ce qui n'est pas énorme en réalité. Mais de toute façon, les résultats positifs des efforts de la CONADI pour élargir le territoire autochtone ont été éclipsés en ce premier quart du XXIe siècle par l'impact néfaste des politiques économiques néolibérales visant à promouvoir la mondialisation de l'économie chilienne en ouvrant le pays aux marchés internationaux. Ont ainsi été mises en œuvre, sans consultation adéquate des communautés autochtones concernées, des projets de construction d'autoroutes, des projets hydroélectriques ou encore des projets d'expansion de l'industrie forestière touchant les territoires indigènes. Ceux-ci ont entraîné l'appropriation, généralement sans compensation, de terres, d'eau, de forêts et d'autres ressources naturelles essentielles à la subsistance culturelle et matérielle des Mapuches. Ceux-ci considèrent ces initiatives comme une seconde occupation de leur territoire et déploient depuis plusieurs années diverses formes de résistance, notamment des manifestations pacifiques, des occupations de terres, les tomas, appartenant à des entreprises forestières ou agricoles privées, et des blocages de routes. Dans les régions du Biobío, de l'Araucanie et de Los Ríos, les affrontements violents entre manifestants mapuches et gardes forestiers ou forces de police sont devenus fréquents. Cela a donné lieu à la militarisation de ces régions, où les soldats font de la surveillance massive, et à une criminalisation des protestations mapuches. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné l'État chilien à plusieurs reprises pour l'utilisation inappropriée de la loi antiterroriste, et en mai 2020, les Nations Unies ont appelé à une enquête sur l'usage excessif de la force. Si le conflit mapuche s'est complexifié ces 10 dernières années, le désaccord historique autour de la restitution des terres ancestrales pourrait entrer dans une nouvelle phase avec l'arrivée au pouvoir du président Gabriel Boric en 2022. Lors de son discours d'investiture, le leader de gauche assurait vouloir mettre un terme au déploiement militaire dans la zone sud du pays et a même esquissé la possibilité d'une réparation sur la base d'un dialogue renoué et d'une écoute de leurs revendications. Et dans un Chili qui ne s'est jamais défini comme une nation multiculturelle, on peut se demander ce qu'il va advenir des revendications des Mapuches et des 9 autres peuples natifs du Chili, parmi lesquels figure la création d'un État plurinational, au sein duquel leur autonomie et leurs droits seraient acceptés, ainsi que la reconnaissance de leur culture et de leur langue, et des garanties en termes de territoire. Avec l'adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007, la communauté internationale a expressément reconnu le caractère de nation des peuples autochtones. Bien que l'étendue de l'autonomie et des avantages revendiqués varient selon les différents secteurs mapuches, de nombreuses organisations s'y réfèrent et l'exigent de la même manière que l'autonomie obtenue par les Inuits au Groenland depuis les années 90 ou que les avantages obtenus par les peuples indigènes de Bolivie après l'élection du président Aymara Evo Morales.
Anaëlle, nous te remercions pour cet ancrage politique.
C'est Millas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et sans transition, on continue avec la chronique de Manon. Tu nous proposes un tour du monde, mais par les mots, dis-nous en plus.
Eh bien, quand je préparais cette chronique, ma mamie m'a dit que Valparaíso la faisait rêver. Le mot sonne poétique, dedans il y a le mot paraíso, et la géographie de la ville, pareil, la fascine. Moi, ça m'a fait écho à la pièce de théâtre « Tous les poètes habitent Valparaíso », que j'ai vue il n'y a pas longtemps au théâtre de La Tempête. Parce que oui, Valparaíso, ça sonne poétique, et du coup, quand j'ai vu tous les poètes habitent Valparaíso, je me suis dit « normal, évidemment ». Le Chili aussi, tout entier, par sa géographie un peu étrange des extrêmes du désert d'Atacama, le plus aride du monde, aux terres de feu, en passant par les vignes de la région de l'Araucanía, il y a en effet de quoi être inspiré poétiquement.
Ok, mais pourquoi un tour du monde alors ?
Eh bien attends, justement, l'histoire de cette pièce « Tous les poètes habitent Valparaíso », elle porte sur une histoire assez drôle et assez ouf. C'est une histoire vraie, c'est celle d'un poème qui a été chanté dans le monde entier, mais notamment par les étudiants chiliens en protestation contre le coup d'état de Pinochet. Le slogan qu'on entend beaucoup et qu'on voit écrit sur les murs des universités, c'est « Y no cerraré los ojos ni los bajaré ». Tout le monde croyait qu'il avait été écrit par l'auteur chilien ultra connu Juan Luis Martinez, et en fait des chercheurs américains ont découvert qu'il avait été écrit par Juan Luis Martinez, Jean-Louis Martinez, un Suisse qui avait helvétisé son nom en partant de son Espagne natale. Mais lui, du coup, il a écrit un seul poème qui a été publié dans quelques journaux locaux suisses et le mec a bossé toute sa vie à la Croix-Rouge après. Basta. Et Juan Luis Martinez, le poète chilien cette fois-ci, qui adorait jouer avec la figure de l'auteur et les homonymes, a repris ce poème et l'a intitulé « Qui suis-je ? Quién soy ?» Et donc avec cette histoire, on comprend la dimension polyphonique, plurielle et peut-être collective que veut donner l'auteur à la poésie et aux mots, et du coup la dimension internationale. Et on fouille un peu dans la littérature chilienne, et les auteurs lus, cette dimension internationale, elle est hyper présente, notamment chez les poètes et poétesses. Pour différentes raisons, autant les thématiques humanistes qu'ils abordent que le cadre politique et régional et international du XXe siècle, de dictature, de montée du fascisme, d'émancipation du prolétariat qui résonne dans le monde entier, mais aussi parce que beaucoup sont partis en exil, notamment un peu avant Pinochet et ensuite après pendant la dictature. D'où le tour du monde des Chiliens et des Chiliennes. Donc le Chili, il a une forte tradition historique de la poésie, avec des auteurs qui utilisent des mots comme arme de résistance et comme arme politique. On peut peut-être commencer par la période des années 1870-1930, avec les poètes populaires ambulants qui affichaient partout dans Santiago, dans la ville donc de Santiago, près des gares et près des marchés, des papiers et des poèmes, qu'on appellera du coup des lira popular, c'est-à-dire des poèmes écrits par tout le monde pour gagner 3 francs 6 sous. Et donc ça a inspiré ensuite la littérature de la corde en Europe, avec des poèmes qui étaient du coup accrochés aux cordes à linge. Donc ces années-là, c'est aussi le moment de la poésie orale campagnarde, la poésie criolla, qui va narrer la vie rurale. Maintenant, on peut peut-être partir pour Vicuña, dans la cordillère des Andes. Et là-bas, c'est pas le Mistral qui souffle, c'est Gabriela Mistral. Première écrivaine poétesse, du coup, sud-américaine, à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1945. Elle a été diplomate, secrétaire de la Société des Nations et a vécu au Mexique et aux États-Unis. Elle a mêlé dans ses poèmes sentiments humains universels et paysages de son Chili du Nord natal. Elle a beaucoup été invisibilisée par Pinochet, mais elle a aussi ensuite été réhabilitée ces dernières années par des militantes féministes chiliennes et universitaires pour ses idées, mais aussi pour ses luttes pour l'éducation des enfants et des femmes. Repartons maintenant pour Santiago, mais un peu plus loin dans le temps, dans les années 70, l'Amérique latine est en ébullition, Salvador Allende est au pouvoir, les groupes communistes, anarchistes, trotskistes, guévaristes débattent dans tous les sens, et c'est aussi l'âge d'or de la poésie chilienne chez les poètes et poétesses, qui font partie de ces groupes, notamment communistes, et qui veulent porter la voix du peuple vers la libération, à l'image de Víctor Jara, chanteur populaire chilien, dramaturge et poète. C'est le 15 septembre 1973, devant le Stade Chili, rebaptisé en 2023 Stade Víctor Jara, qu'il va chanter ce poème quelques heures avant son assassinat. Somos 5000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000, ¿cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignomina. Avant cette période, ce sont des milliers de Chiliens et Chiliennes qui partiront en exil, dont le célèbre Pablo Neruda et la grande Isabel Allende. Pablo Neruda, plus trop besoin de le présenter, mais quand même. Il a reçu le prix Nobel en 1971, il a aussi été diplomate partout dans le monde. Il a souvent trouvé son inspiration dans sa maison en haut de Valparaíso, pas étonnant. Il a écrit des poèmes hyper érotiques tels un Arthur Rimbaud chilien, mais il a aussi écrit du coup des poèmes manifestes politiques contre le fascisme de Pinochet. Il y a donné ses mots autant que son corps à cette lutte et à cette résistance, puisqu'il est mort, probablement tué par la junte militaire. Et quant à Isabel Allende, elle a croisé Neruda et c'est lui qui lui a donné le goût de l'écriture. Isabel Allende, c'est la nièce du président Salvador Allende. On est sur la troisième Allende de la chronique. C'est l'écrivaine la plus connue et plus populaire du Chili, qui a été traduite dans le monde entier. Elle est aussi diplomate et en 1975, elle s'exile au Venezuela. Et c'est là-bas qu'elle écrira l'œuvre qui l'a fait connaître mondialement, La Maison aux Esprits, qui est l'histoire d'une lignée de 4 femmes dans un paysage politique chilien des années 20 aux années 90 qui se transmettent toute la mémoire du Chili en parlant aux esprits. Donc lutter, c'est aussi ce que fait le poète et médecin mapuche Chihualaf Elicura, qui a eu le prix national de littérature du Chili en 2020. Et à travers ses poèmes, Elicura Chihualaf a joué le rôle de médiateur culturel pour le peuple mapuche avec l'État chilien. Enfin, on termine peut-être ce tour avec Luis Sepúlveda, journaliste voyageur infatigable qui a conté des histoires du monde entier. Son recueil de poèmes, Les Roses d'Atacama, marque bien cette dimension universaliste et internationale. Il y raconte et rend hommage aux héros oubliés, ceux dont on ne porte pas les voix et qu'il a pu côtoyer au cours de sa vie mouvementée, ceux qui étaient victimes des nazis, de Pinochet, des soviétiques, lors de l'invasion des chars russes à Prague en 68. Minuscule extrait. Au crépuscule, nous nous arrêtâmes dans un cimetière aux tombes ornées de fleurs en papier desséché, et je crus que c'était les célèbres roses d'Atacama. Sur les croix étaient gravés des noms espagnols, aymara, polonais, italiens, russes, anglais, chinois, juifs, unis par la solitude de la mort et le froid qui s'abat sur le désert dès que le soleil s'enfonce dans le Pacifique. En gros, une petite poésie contre Trump éventuellement.
Eh bien, merci Manon pour ta chronique. Chers auditeurs et auditrices, nous approchons de la fin de notre émission.
Mais avant ce triste moment, c'est Pauline qui est devant le micro de Semillas Latinas. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Ce soir, tu nous proposes d'aller à la rencontre de trésors non pas enfouis, mais à l'air libre, à la vue de toutes et tous, et gratuit en plus. De quoi s'agit-il ?
Oui, un art que l'on peut retrouver à chaque coin du monde directement dans la rue. Un art qui ne cesse d'évoluer, de se réinventer. Un art du peuple, pour le peuple. Ce soir, je vais vous parler de street art.
Acá tú podís, yo puedo ir, golpear la puerta y conseguir que esa persona me pase el muro. Acá hay una, la gente igual está abierta a la idea.
Alors vous vous dites peut-être pourquoi le Chili pour évoquer le street art et non pas les États-Unis avec New York ou encore l'Europe avec Berlin, soi-disant la capitale du street art. Eh bien justement, c'est peut-être parce que c'est bien dans ce gigantesque continent qu'est l'Amérique du Sud que tout a commencé. Dans la forêt amazonienne plus précisément, où des chercheurs ont retrouvé les traces de la plus grande collection de peintures rupestres au monde, datant de plus de 12 000 ans avant notre ère. La chapelle Sixtine à côté, c'est rien quasiment. L'art de la rue ou l'art urbain, c'est un mode d'expression qui ne date pas d'hier, notamment en Amérique latine. Au Mexique, par exemple, où l'un des peintres les plus connus des années 20, Diego Rivera, a donné à l'art un tout autre visage, celui de transmettre des messages au peuple en transformant l'espace public. Le courant nommé le muralisme dans les années 20 a permis à la fois de rendre l'éducation plus accessible, notamment grâce à de grandes fresques historiques, tout en communiquant des idées politiques. L'art sort de la rue, devient un outil politique et se diffuse grâce à l'image.
C'est super intéressant. J'imagine que cela s'est passé de la même façon au Chili où le street art recouvre les murs du pays et est devenu une véritable attraction touristique aujourd'hui.
Oui, comme à Santiago, considéré comme l'une des capitales du street art, ou encore à Valparaiso, où on peut admirer des façades aux mille couleurs. Mais pour comprendre cet essor du street art au Chili, il faut remonter en arrière. Les marins avaient l'habitude de surnommer Valparaiso le joyau du Pacifique. Au XIXe siècle, il faisait bon vivre. Pourtant, Valparaiso connut ensuite des années sombres sous la dictature de Pinochet. Comment ne pas se réjouir que la ville soit classée aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO, et cela en partie grâce à la scène foisonnante du street art. À la fin des années 60, de nombreux messages de soutien à Salvador Allende, alors président du Chili, apparaissent dans les rues de Valparaiso. Mais lorsque le général Augusto Pinochet prend le pouvoir par la force en 73, les autorités tentent d'effacer toute revendication politique. Le graffiti devient alors un outil de guerre. À défaut de pouvoir manifester librement, les idées de contestation politique sont affichées sur les murs.
Je vois donc que dans le street art, il y a toujours cet esprit de contestation, une façon de pouvoir s'exprimer de manière libre, et c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup au Chili et presque partout en Amérique latine de façon générale.
Oui, c'est un peu dans la mentalité, peut-être dans l'ADN même de ce continent. Au Chili, en 1990, après la chute du dictateur Pinochet, le gouvernement local de Valparaiso